J'ai fait un drôle de rêve cette nuit.
Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix.
Bien sûr, c'est encore un petit peu le chantier là, mais on avance bien, mine de rien.
Personne ne se moquera de toi pour avoir posé nu devant un peintre. On est des addicts aujourd'hui.
C'est moi? Vous me voyez comme ça? Je ne vous savais pas critique d'art.
Alors Thérèse, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Are we in the Matrix? I am Keanu Reeves.
I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin.
Hello tout le monde, c'est Caroline. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Et mine de rien avec cet artiste que l'on voulait interviewer depuis si longtemps. Et ça y est, ce jour est arrivé. Et parce que je suis en train de faire le montage, je voulais juste vous informer qu'au tout début de l'épisode, il y a un très 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 léger bruit de fond, mais que l'on entend à peine. Voilà, moi je vous le dis parce que voilà, je souhaite que vous vous sentiez bien et que vous ne paniquiez pas. Mais franchement, ça ne dure pas longtemps, c'est juste les premières minutes de l'épisode. Et après, pendant toute une heure, c'est que du bonheur à écouter Anna nous parler de son travail, de son métier et de ses références, bien sûr, des œuvres qui l'ont marquée, parce que c'est le but de l'épisode. Les artistes viennent nous parler de trois œuvres qui les ont particulièrement marquées à un moment donné. Et puis à la fin de l'épisode, on parle de pop culture. Parce que c'est quand même super cool. Je vous souhaite une très très bonne écoute et à très bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Et mine de rien. Salut Alexis.
Salut Caroline.
Salut Anna.
Bonjour.
Anna, on est très heureux, mais tu dois le savoir, de te recevoir avec nous aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Anna, puisque c'était la recommandation de Louis lors de son épisode.
Oui.
Voilà. Qui voudrais-tu entendre à ce micro? Donc elle a dit Anna Cox.
On m'a réclamé.
Et nous, bah, on est trop contents parce que de toute façon, on avait envie de t'inviter, parce qu'on trouve que ton travail, il est super aussi. Et
peut-être bientôt. Elle sera inaccessible.
Peut-être qu'elle sera inaccessible très bientôt. Mais du coup, on va garder ça pour un tout petit peu plus tard. Voilà. Et du coup, Anna, tu es très jeune, tu as 28 ans.
Ouais, c'est relatif.
Et donc, tu es peintre et tu es peintre en décor du patrimoine.
Oui.
Tu as fait des études d'art plastique.
Tout à fait.
Un master recherche à Toulouse.
Un master karma.
Un master karma, exactement. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te prédestinais à devenir peintre en décor du patrimoine?
Pas du tout. À ce moment-là, j'étais très paumée dans ma vie. Et je pensais qu'à une chose, c'était peindre. Et je réfléchissais pas beaucoup à la suite.
Et tu peignais quoi?
Je peignais mes potes. À poil. ouais, globalement, c'est ça.
Et sur, alors, parce qu'en plus, c'est pas des miniatures, ce que tu fais.
Ouais.
Et c'est donc des très très grands formats qui sont un peu plus grands que échelle 1, c'est ça?
Ouais, alors le format, ça dépend de la taille du rouleau que je trouve. Souvent, c'est 1,50 m de haut, qu'on ne trouve pas plus. Et le plus grand que j'ai fait, c'était 3 mètres. Donc 1,50 m sur 3 mètres. Et en fait, du coup, à chaque fois, ce que je voulais, c'était. Enfin, ce qui m'avait paru le plus cool, c'était de représenter le corps à échelle 1, grandeur nature. Et bizarrement, à chaque fois, je le refais un peu plus grand. Donc, il y a un effet un peu bizarre. Et du coup, à cette époque-là, à la fac, c'était beaucoup en lien avec l'histoire de l'art. Parce que c'est toujours quelque chose, un sujet qui m'a pas mal passionnée. Donc, je prenais des poses de tableaux qui m'avaient plus ou moins touchée ou parlé. Et je demandais à mes amis avec qui je faisais pas mal de performances à l'époque.
Ah, t'as fait de la performance aussi?
Ouais.
Oh, okay.
Dans ces sombres années-là. avec qui, voilà, il y avait une intimité, il y avait un rapport au corps, c'était complètement OK de demander ça. Et donc, je leur demandais de poser à poil dans, plus ou moins dans la même scène, dans la même pose, mais de la réinterpréter selon elles, ce qu'elles trouvaient normal ou ce qui coulait de source pour elles. Je prenais en photo ça et je faisais grandeur nature.
D'accord. Et c'était son sujet de recherche en master?
Tout à fait. J'ai fait un mémoire là-dessus.
Ok.
Sur la peau en peinture.
Et est-ce que c'est dur d'écrire sur sa pratique?
Moi, j'ai adoré mon master parce que j'avais une super directrice de recherche, Emma Viguier. J'avais des super potes, j'avais des super profs. Et j'avais aussi à côté une super prof, Emmanuel Mason, qui avait un atelier de gravure. Un super prof de peinture à l'huile, Jean-Philippe Esca. Et écrire, en fait, j'imagine c'est difficile quand on dit « écris sur ta pratique ». Mais là, dans ce cadre-là, vu qu'on lisait tout le temps, on parlait tout le temps, on échangeait tout le temps, en fait, t'écris pas directement sur sa pratique, t'écris une réflexion sur des pistes de recherche que tu tires de ta pratique. Et moi, j'avais un super cadre. J'avais mon petit appart à côté de la prairie des filtres. Je me levais quand je me levais le matin. Je passais la journée à bosser, écrire, lire, faire des recherches. Et genre, fin d'après-midi, j'allais retrouver mes potes à la prairie. On faisait du cirque et on passait une soirée chouette. Et après, ça recommençait. Enfin, il y avait un rythme cool.
Ouais. Et... Oh pardon, vas-y.
Non, parce que du coup, je me disais, ton sujet, c'était la chair dans la peinture. Comment ça t'a nourri, toi, dans ta pratique? Est-ce qu'il y a des choses que tu avais déjà captées ou tu as évolué justement dans les couleurs, enfin, peu importe, toute ta pratique, il y a des choses que tu t'es réappropriées, il y a des choses...
Tu veux dire de fait d'écrire
ce le fait d'écrire, de faire des recherches dessus.
C'est une bonne question, parce que je pense que, carrément, il y a eu un aller-retour, en fait, qui se passe entre des choses que tu découvres dans tes recherches, et tu vois qu'il y a des trucs qui... Tu te dis, mais en fait, j'avais pas pensé ça comme ça, mais vu sous cet angle de réflexion-là, ça explique tout ce que je fais depuis le début. Et j'ai tout plein de notes que je me dis qu'un jour je ferai peut-être une thèse.
Ah ouais, c'est vrai?
D'autant plus que du coup, avec l'école que j'ai faite de peintre en décor du patrimoine cette année.
Que tu as faite à Avignon.
Que j'ai faite à Avignon, c'est donc l'école d'Avignon. Et je me dis, il y a énormément de trucs à faire parce que c'est une école très pratique, très technique, qui est artisanale. Et moi qui viens de la fac, donc la fac c'est vraiment l'université, le savoir, la recherche, où il y a des lacunes au niveau pratique, mais ils tendent vraiment vers faire ce lien pratique théorie, recherche et création. Je me dis, en fait, le lien il doit se faire là, parce que c'est trop intéressant, c'est dans ce lien là que les choses intéressantes se passent. Et l'école que j'ai faite, je me dis, mais en fait, trop de choses intéressantes à parler. Donc,
Et comment tu t'es dit j'ai envie de faire l'école d'Avignon? À quel moment c'est survenu?
C'est venu avec le temps. Après mon master, j'ai fait une pause, j'ai fait des petits boulots, j'ai continué toujours la peinture, mais c'était pas... je me suis jamais dit que ce serait possible d'en vivre. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je me trouve un travail un jour. Et c'était peintre en décor, en fait, c'était la meilleure compromis que j'avais trouvé, dans le sens de trouver un travail alimentaire qui soit aussi stimulant. Et en fait, en faisant des rencontres, en parlant à des gens pour savoir un peu quelle était l'école qui serait la plus appropriée à ce que je cherchais, on m'a conseillé l'école d'Avignon, parce que en fait, c'est pas simplement peintre en décor, c'est peintre en décor du patrimoine. Donc il y a ce lien avec l'histoire de l'art que moi, ça me plaît beaucoup. Il y a un gros bagage technique, et il y a un gros bagage technique de restauration, parce que patrimoine, c'est la peinture de décor appliquée aux monuments historiques. Donc en fait, t'apprends les techniques de l'époque. Donc il y a un petit côté magique, en fait. Il y a une grosse différence d'approche de l'artisanat avant la guerre. Je reviens sur le béton romain. Donc le béton romain, c'est genre utilisé depuis l'Antiquité, bien avant l'Antiquité, jusqu'au 19e siècle. Et après la guerre, on amène le béton et l'acrylique. Et on dit aux artisans, en fait, vous ne savez pas faire, vous utilisez ça, c'est hyper facile. Le béton, tu mets de l'eau, enfin, le ciment, tu mets de l'eau, et hop, ça tient, tu peux faire des grosses épaisseurs. Tu n'as pas besoin de savoir la science de la granulométrie, des dosages, du mélange de chaud, du matériel à chaud. Tu fais ça comme on te dit, et en fait, il y a toute une économie derrière des produits qu'on te vend. Et il y a une grosse baisse de la reconnaissance, du savoir-faire de l'artisanat. Et c'est plus les artisans qu'on écoute, c'est les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les ingénieurs. Et du coup, forcément, en fait, on perd quelque chose. On est vachement dans
l'exécution,
la théorie, la commande, et on n'est plus trop dans... on part du savoir-faire, de la technique, on part d'en bas, quoi.
Et... Ouais, c'est vraiment une philosophie qui a changé. Et du coup,
ouais. Ouais, okay. Bah, ça, je vous raconte ça, c'est ma vision des choses par rapport à tout ce que j'ai vu.
Ok, oui.
Je sais c'est pas ton trop. C'est aussi un peu le point de vue de l'école, j'imagine. Je sais pas si me taperait sur les doigts si je disais ça ou pas, mais. Mais il y a ce truc-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une approche différente de l'artisanat après la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de savoir-faire qui se perdent, beaucoup de formations qui ne sont plus autant à la qualité de ce que c'était avant. Et du coup, sachant ça, sachant cette situation, sachant ce terrain-là, c'est pas possible. Parce que qu'on sache faire des trucs que... Enfin, le gothique, c'est une science de la taille de la pierre qui est... tellement excellente qu'elle est quasi magique, quoi. C'est,
okay, ouais.
C'est.
Non, on se rend pas compte, en fait.
Je pense, on se rend pas compte. Ouais, en fait, c'est toute la, enfin, le gothique, c'est toute la science de la stéréotomie. Donc, c'est la tailler la pierre de manière à ce qu'on ait quasiment pas besoin de ciment, de béton.
J'ai ah pas oui, dit oui, ciment. Que ça
pas du tout dit béton.
Ça s'encastre, en fait.
Ça sent, ouais, c'est genre des Legos, quoi. Ouais, des Legos parfaits à une hauteur très très haute, avec des ouvertures immenses. Et pour faire ça, il faut un savoir-faire.
Mais c'est vrai que quand tu rentres dans les églises et que tu regardes les plafonds, tu te dis, mais en fait, comment ça peut tenir ces arcs et tout? Et en fait.
Et si tu regardes bien, il y a quasiment la pierre, elle est quasiment peau contre peau avec l'autre, quoi.
Ah, oh, peau contre peau.
Oui. C'est joli. Je suis matrixée.
Et donc, tu es officiellement, toi, diplômée de cette école.
Oui.
Donc aujourd'hui, tu peux te présenter en tant que peintre en décor du patrimoine et tu as ce diplôme qui te donne ce titre-là.
C'est ça. J'aurais dû vous ramener mon t-shirt.
Ah, t'as un t-shirt ? Oh mon God !
On le dira à tout le monde.
Et donc toi, tu étais peintre avant d'être peintre en décor du patrimoine. Mmh. Et donc, tu nous as expliqué que ton sujet avec lequel tu te sentais le plus à l'aise, c'est peut-être la peinture de nu, enfin les portraits. Est-ce que ça t'a servi pour rentrer dans l'école, par exemple? Est-ce qu'ils t'ont demandé un book, ce genre de choses?
Ouais, en fait, il y a une sélection pour entrer dans cette école, parce que c'est le diplôme, alors je sais pas du tout comment ça marche, mais le diplôme, c'est un truc comme bac plus 2 ou bac plus 3.
Ok.
Et vu que ça dure qu'un an, ils sélectionnent ceux qui rentrent sur book, sur entretien, sur examen de questions et de pratiques en temps donné. Et moi, c'est sûr que quand je suis arrivée là, j'avais un truc comme 7 ou 8 ans de peinture dans les pattes. Et j'avais un gros avantage, qui n'était pas forcément très juste par rapport à mes potes de ma promo qui n'avaient quasiment jamais fait de peinture.
Oui, mais c'est un choix de vie différent aussi. Toi, t'as fait plein de choses avant de te lancer dans cette école.
Mais c'est sûr que moi, du coup, j'avais ce gros avantage-là, quoi.
Tu sais dessiner, tu sais représenter, tu sais maîtriser les mélanges des couleurs un peu.
Ouais. Et qui pas du tout pareil, ça demande aussi pas mal de remise en question parce que par exemple, faire des faux marbres ou des faux bois, on te demande un peu de peindre une peinture abstraite avec des codes. Et quand toi, quand t'as passé genre du coup 7 ans de ta vie à peindre comme tu voulais toi, comme tu l'entendais toi d'après photo, et qu'on te demande de faire ça avec des pinceaux que tu sais même pas comment les tenir. Enfin, on te demande de prendre ton pinceau comme un archer de violon et pas comme un crayon. Enfin, t'es là, attendez 2 minutes.
J'ai 7 ans de peinture à remettre en question, là, c'est trop violent.
Donc, il y a une remise en question, il y a des trucs qui faut que tu lâches prise, mais il y a aussi des trucs que ça te sert quand même, on va pas se le cacher. D'avoir fait de la peinture avant, c'est un gros plus, quoi.
Tu nous racontais donc à la fin que t'as un oral pour valider ton année, c'est ça?
Ouais, du coup toute l'année, les 6 derniers mois à partir de janvier, tu montes un projet de décor que tu dois inventer toi, en rapport à un lieu qui t'est donné, un lieu historique qui est à Avignon Intramuros, où tu peux te rendre quand tu veux. Nous c'était le musée Calvé. Et donc, en fait, il fallait imaginer... Donc, tu as des contraintes. Nous, par exemple, il fallait qu'on imagine un décor pour la salle des expositions temporaires de ce musée, qui est un bâtiment classé. Et la salle des expos temporaires, elle était absolument pas restaurée. Enfin, c'était un white cube, un peu. Donc, il fallait qu'on imagine un truc à la fois en raccord de style, enfin, ou en rupture. Mais bon, bref, tout un délire là-dessus. Et ce projet, tu dois faire... C'est assez conséquent ce qu'on te demande, mais en même temps... C'est le métier. On te demande de faire un échantillon, échelle 1, de ce que tu vas faire sur 1 mètre par 2 mètres à peu près. On te demande de faire une maquette du lieu. On te demande de faire un dossier, un oral et des élévations, donc des dessins d'archi à l'aquarelle à l'échelle à l'ancienne, quoi. Oh my god.
Mais vous apprenez à faire tout ça durant l'année pour avoir un projet aussi complet.
Ouais, parce que du coup,
c'est fou.
C'est court la formation.
Ouais.
Pour,
ouais, c'est court.
T'aurais aimé très dur pour longtemps.
Ok.
Ouais, bah oui, moi j'adore les études. J'avais pas envie que ça s'arrête.
Surtout si tu veux faire une thèse en plus. ouais. C'est fou, quoi.
Non,
ouais.
Mais du coup, c'est ça aussi que tu m'avais expliqué, c'est que dans cette école, toi tu es fait peintre de décor du patrimoine, mais t'as aussi des gens qui sont que dans la restauration, c'est ça?
Il y a un peu tous les profils.
Ouais.
Quand tu sors de cette école, le diplôme, c'est peintre en décor du patrimoine, donc oui. C'est pas restaurateur. Mais t'as des gens, par exemple, moi, je suis genre, on va dire, plutôt dans l'art plastique, la création. J'arrive et j'ai envie de passer par là pour avoir un métier quand même en lien avec la peinture et un truc artistique et historique. Mais il y a des gens qui vont venir chercher vraiment le côté restauration. Le côté science de la restauration des monuments ouais. historiques. Il y a des gens qui vont venir chercher le côté plutôt formation, plutôt... Enfin, il y a plein d'approches.
Oui, en fait, ça peut bifurquer. Après.
C'est ça. Mmh. Et on avait une promo très mixte, à la fois en termes des parcours avant et puis de ce qu'on cherchait dans cette formation aussi, ce qu'on voulait apprendre.
Et donc, t'es tellement forte, en fait, qu'on t'a proposé de candidater pour travailler pour le prince de Monaco.
C'est une fake news.
Une principauté toute petite de 2 km carrés dont l'influence est pourtant grandissante. Je veux bien sûr parler de la principauté de Monaco. On a tendance et on a tort à ne l'associer qu'aux stars, aux paillettes. Mais le rocher abrite aussi un patrimoine éblouissant façonné par une histoire chevaleresque.
Quand on se rend compte de l'inaccessibilité.
Non mais c'est fou. En fait, non mais en vrai, ça pose la question de comment tu arrives en fait à travailler sur des monuments qui sont quand même d'une grande importance. Est-ce que c'est toi qui te présentes avec tes travaux sous le bras et qui dis j'ai entendu parler de ce projet-là et j'aimerais bien bosser avec vous? Ou est-ce que en fait, ce genre de projet, c'est finalement on te repère et on t'incite à venir travailler?
Moi, genre, j'ai autant dans cette formation et cette promo, j'avais des facilités en peinture, autant tout ce qui est monde du travail, démarchage, penser à la suite, c'était la grosse lacune que j'avais. Et c'est là qu'on m'a dit, Anna, il faut que tu arrêtes de bosser sur les cours parce que tu sais déjà faire, il faut vraiment que tu fasses des stages.
Okay.
Et j'étais là, non, je veux pas travailler gratuitement. J'ai la flemme. Et du coup, j'ai fait des stages et j'ai beaucoup râlé. Mais au final, c'est ça qui m'a pas mal apporté aussi. Mais pour revenir à ta question, je pense que toutes les approches sont possibles. Je pense que tu peux carrément démarcher, même ces personnes-là, si tu as les contacts. mais tu peux aussi, ça se passe dans les deux sens.
Et là, la principauté, ça s'est passé comment?
La principauté en fait, moi, j'ai eu la chance que une de mes profs qui encadrait le projet de fin d'année de mon année bosse là-bas. Donc, en fait, au Palais de Monaco, il y a un gros chantier sur la peinture en décor du palais qui est classé patrimoine, il me semble. Et donc, cette prof, en bossant là-bas, donc c'est un groupement d'indépendants, a vu que je faisais mon projet du coup sur des personnages grandeur nature, et il y a plus ou moins un projet qui est en gestation là-bas sur potentiellement ça qui les intéresserait d'avoir comme profil. Et donc j'ai fait un entretien d'embauche avec le manager du prince.
Oh my god.
Dans le palais lui-même.
Oh là là. Dans le palais lui.
Ouais,
t'es allée là-bas du coup?
Ouais.
Oh alors.
C'est
comment le rocher? Ils t'ont vu arriver avec ton sac à dos et tout.
Alors j'ai fait beaucoup d'efforts pour être bien habillée.
Pas pour toi.
J'ai cherché très loin pour trouver un pantalon qui n'était pas taché, un t-shirt qui n'était pas troué.
Après ça fait travailleur, hein. Peut-être qu'ils aiment ça.
Non,
d'accord. Okay.
Non, parce que dans le mail que j'ai reçu, il y avait ma prof qui me l'a envoyé. Il y avait tenue correcte obligée.
Ok.
Et j'étais là, sérieux, je suis sûre qu'elle l'a envoyé vraiment pour moi, parce que genre, je viens toujours en tenue de travail ou en pantalon de chantier. Genre, entre parenthèses, il est marqué pas de short, pas de tongs et pas de pantalon de chantier.
Ok.
Je dis, ah, ok, je vais m'habiller comment ?
D'habitude, tu viens avec les trois.
Une combinaison des trois.
Un short de chantier avec les ongles.
Vous voulez s'imaginer sa tenue d'aujourd'hui.
Mais voilà, et du coup, voilà, j'avais ma petite chemise.
Ok.
Et c'était... Ouais, c'était... Enfin, lunaire un peu pour moi de... Mais c'est très impressionnant aussi et très très beau.
Mais ce qui est fou, c'est que t'es restée humble parce que t'as accepté notre invitation.
Oui, au final.
Au final, ouais.
Pour notre petit
podcast. Après réflexion.
Non, mais après, il n'y a rien d'acté non plus. C'est pas sûr que ça se fasse.
Ouais, ouais.
C'est juste ça, c'est en place. On verra où ça mène, quoi.
Mais du coup, c'est quoi ton statut ? T'es artiste, artisan ?
Je suis artiste-auteur. Et là, je vais prendre le statut, en plus, de cumuler auto-entrepreneur micro-entreprise.
D'accord.
Pour pouvoir facturer...
Mais du coup, selon le chantier, tu penses que tu pourrais te définir plus comme artisan quand ou vraiment, toi, tu te vois en tant qu'artiste-auteur et
ouais.
Du coup, c'est une extension. Enfin, c'est...
Ben, ça swing un peu entre les deux, en fait. Ça va dépendre pas mal des projets.
Ouais.
Par exemple, là, le chantier qui arrive, on m'a demandé... donc, c'est une création de décor.
Ouais.
Donc, ça, c'est top. C'est, c'est vraiment ce que j'aimerais trop faire à terme, même si je sais que c'est quand même un peu plus rare que la restauration. Donc là, je me disais que je pouvais facturer en tant qu'artiste-auteur. Et en fait, non, parce que je vais peindre sur un mur qui ne m'appartient pas. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que je fais n'est plus à moi. Donc en fait, c'est de l'artisanat.
Ah, d'accord.
Si tu creuses l'administration, okay. tu deviens fou, je pense. Enfin, les cases que tu dois rentrer. Donc en fait, ça swing entre les deux.
Okay.
C'est la limite un petit peu floue.
Parce que c'est pas ton support, du coup, ton travail ne t'appartient plus.
Oui, c'est on pourrait faire une disserte là-dessus.
Alors que, comme tu dis, c'est un travail de création.
Ouais.
Ok.
Et est-ce que malgré tout ça, tu arrives quand même à travailler tes projets à côté ? Genre là, t'es venue avec une pochette et tu nous as montré tes futurs projets de sérigraphie.
Oui.
Donc la gravure, t'en fais depuis la fac, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure avec Emmanuel Mason, c'est ça ? C'est elle qui t'a initié à la gravure ?
Oui, c'est ma maman.
Coucou Emmanuel. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui te tient à cœur parce que ça fait 8 ans et tu continues à en faire. Et même là, malgré ça, t'as encore ta pochette avec toi. Demain, tu vas aller sérigraphier. Tu sérigraphies où à Toulouse ?
Je sérigraphie chez Annie Zambert, l'atelier 54 kilos centimètres.
Ok.
Qui est une personne très chouette. Et...
Oui.
N'est-ce pas ?
J'ai pu la rencontrer.
Ouais. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de ton projet là, de sérigraphie ?
Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est... pour répondre à ta question tout à l'heure, ouais, j'arrive vachement à continuer la création à côté parce que j'ai fini ma formation en septembre et là, ça m'a pris beaucoup de temps à organiser les chantiers qui vont venir. Donc, en parallèle de ce laps de temps qui était beaucoup d'attente et beaucoup d'administratif, j'avais tout à fait la disponibilité d'esprit pour créer. Donc, j'ai fait au taquet le projet, donc je suis contente. Et là, ce projet-là que je vais faire demain, c'est un truc sur les autoportraits. C'est un peu un truc que je fais un peu tout le temps. J'ai genre plein de petits carnets. Et quand ça va pas, ou quand ça va bien, ou quand j'ai un moment devant la glace, je fais un autoportrait. Soit devant la glace avec un truc un peu réaliste, soit juste de tête, un peu un truc plutôt stylisé. Et en regardant un peu mes carnets, je me suis dit que j'avais envie d'en faire quelque chose et en même temps, je savais pas trop quoi. Et en fait, je me suis dit que j'allais scanner tous ces autoportraits de septembre dernier à septembre cette année, les scanner, les imprimer en typon, donc en Cropac sur Rhodoid, et que j'allais en faire des sérigraphies et que j'allais tirer ça sur papier Japon. Du coup, le papier Japon, c'est un papier qui est un petit peu sensible et pas transparent, mais pas très opaque. Et en superposant toutes ces pages-là comme un livre, il y allait avoir comme une transparence entre tous les autoportraits qui allaient pouvoir se faire. Et j'aimais bien le dessin qui se faisait en superposant tous ces autoportraits, parce qu'il y avait un truc de... les aléas, un peu des émotions, de comment tu te perçois. Et en fait, au final, ça fait un seul et même objet.
Mmh. Et pourquoi la sérigraphie pour faire ça ? Pourquoi t'as pas refait en gravure, par exemple ?
Oh là là, parce qu'en gravure, ça prendrait 1000 ans.
Ah ouais.
Je pense que moi, je suis un petit peu impatiente. Et quand je veux faire un truc, je suis... il faut que ça parte, là. Et tout le long moment à caler ces trucs, souvent c'est chiant. Et du coup, c'est une technique qui est pour les gens comme moi, qui veulent faire plusieurs couleurs, mais sans avoir à caler les couleurs entre elles. Donc tu mélanges tes couleurs sur le même cadre, et ça fait des petits effets.
Ça fait des très jolis effets.
Mais ouais. C'est fou parce que tu dis que t'es impatiente, mais moi je me souviens de toi en train de faire des dessins immenses, pareil, avec plusieurs mètres, à la plume et à l'encre.
Ouais, je suis patiente à certains endroits et impatiente à d'autres.
Ouais. C'est-à-dire l'aspect technique, faut que ça enchaîne, mais quand t'es en train de créer, réaliser concrètement la figure qu'elle apparaît, là tu peux prendre ton temps.
Ouais. Quand je suis, ouais, je pense que quand je suis dedans, après c'est pas du tout la même le même truc d'être dans un atelier où tu fais de la peinture ou du dessin à la plume et quand t'es dans un atelier d'estampe ou de sérigraphie, parce que dans ton atelier à toi où tu fais tes trucs, t'es dedans du début jusqu'à la fin et t'as ce petit état, je sais pas, que je pense qu'on est plusieurs à aimer, quoi, le côté un peu méditatif où tu t'oublies et en même temps tu te retrouves, je sais pas. Et par contre, quand t'es dans un atelier collectif ou un atelier d'estampe, tout simplement, t'as énormément de choses que tu vas faire avant et que tu vas faire après. Tu vas préparer et après tu vas nettoyer. Et c'est très long. Et en même temps, tout dépend de cette préparation, de si t'y arrives, si t'es consciencieuse ou à ce moment-là ou pas. Et moi, ces étapes-là, souvent, vu que je l'ai beaucoup, beaucoup fait, souvent, il y a un côté où ça me gave.
C'est aussi une question que moi je me pose souvent. En fait, c'est le lieu dans lequel tu travailles. Parce que, en fait, moi quand je prenais des cours de dessin et de peinture, quand je me retrouvais dans un atelier, je ne pouvais que dessiner des sujets avec lesquels j'étais assez distant, en fait, dans lesquels je n'avais pas d'implication. Et après, je me dis, si je me mets à ta place et que je dessine vraiment des sujets qui sont intimes, mes amis, en plus dans leur nudité, etc., est-ce que c'est possible d'arriver à travailler dans un atelier collectif ou quand t'as du passage, où t'as tout le monde à côté? Ou est-ce que toi, t'as besoin de te retrouver aussi un peu dans la solitude parce que c'est intime, en fait? Des fois, tu fais des autoportraits, des portraits. Je me souviens de la série des Méduses qui était le portrait de ta maman, si je n'abuse pas. Comment t'as ce lien à l'atelier, toi?
Waouh, bah c'est complexe. Il y a des choses que je pourrais pas, comme tu dis, faire avec des gens qui me regardent ou qui sont juste à côté de moi. Genre les peintures grand format. Aussi, à la fois parce qu'il y a ce truc où il faut vraiment que tu te mettes dedans. Et là, ça peut pas souffrir de quelqu'un qui te regarde. Et à la fois parce que à chaque fois que tu te lances dans un projet comme ça, ou en tout cas moi, à chaque fois que je me lance, j'ai peur de pas y arriver. Et si quelqu'un te regarde, passe et tu dis « Ah, tu fais quoi? C'est joli. Ah, t'as pensé à ça ?» Bah, t'es là « Non, 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 non. » Ça va se passer comme ça. Et par contre, il y a vraiment une respiration et un truc chouette avec le fait d'avoir cet endroit-là pour toi et d'avoir à côté un atelier collectif que j'ai pu avoir à la fac avec cet atelier de gravure où en fait, j'ai appris petit à petit à devoir faire en fait des projets devant les autres, parce que bah, par exemple le monotype, tu dois peindre ta plaque juste avant de l'imprimer, donc tu peux pas le faire chez toi. Au début je me suis dit que j'y arriverais pas, et en fait ça se fait, ouais. Ça demande, je sais pas, des gens de confiance et une bonne ambiance, et aussi que t'arrives à te mettre un peu dans ta bulle, t'écoutes ta musique ou ce genre de choses, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux.
Et est-ce que tu arrives à travailler aussi avec du monde autour des fois? Parce que tu nous parlais de la performance. Moi, je savais pas que tu avais fait de la performance. Et est-ce que c'est aussi en lien avec une des artistes que tu as choisie, Pina Bosch, qui est une artiste allemande et une très grande danseuse? Est-ce que c'est là le lien avec la performance, en fait? C'est à cette époque-là que tu l'as découverte?
Carrément. Je pense que, en fait... par où commencer? En fait, à la fac, au début, plutôt en licence, du coup, c'était beaucoup de l'exploration de tout ce que c'était que l'art contemporain. Et c'était aussi pas mal lié à des rencontres et des personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là qui étaient beaucoup dans la performance et des profs qui nous poussaient à faire la performance. Et en fait, ça m'a pas mal fascinée. Et donc, je faisais pas mal ça. Mais d'un autre côté, j'avais un peu l'intuition que aussi, ce qui me plaisait, c'était la peinture et le dessin. Et je savais pas trop où est-ce que je voulais me diriger. Et il y a eu un moment où je me suis dit, bah vas-y, je vais peindre Pina. dans une photo où elle est en photo dans le Café Müller, une pièce qu'elle a faite. Il y a ce côté danse contemporaine, mais très performer avec ce qu'elle fait. Grandeur nature, parce que j'ai envie de tester. Et en fait, ça a été le moment où ça fait un peu le lien entre la performance avant et la peinture après. Parce qu'après ça, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment un truc qui va beaucoup plus loin que ce que je ressens en performance. Et on va plutôt aller là-dedans.
Tu ressentais plus de choses à peindre qu'à performer ?
Ouais, de
ouf. C'est fou, incroyable.
Ah, mais de ouf, ça a été le jour et la nuit. Et ça a été vraiment, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça toute ma vie.
Je savais que c'était, c'était pour toi.
Ouais, c'est cette sensation que tu dis... C'est la meilleure sensation que j'ai de ma vie. Je ne veux pas m'arrêter.
Ouais. C'est incroyable. Et c'est à la fac qui vous ont montré Pina Bausch ou Café Müller, ou c'est toi qui, dans tes recherches, qui l'a trouvé ?
C'est ma mère qui me l'a montré quand j'étais avant la fac, j'étais au lycée.
Okay.
Ça n'allait pas forcément bien. C'est pas forcément bien.
Et là, ça va ?
Et là, ça va. Mais ma mère m'a soignée à coups de films conceptuels et art et d'essai.
Ok.
Ah, c'est...
Elle m'a montré Wim Wenders.
Ah oui, du coup, c'est...
Le pinot de Wim Wenders.
Ouais. Elle m'a... Enfin, j'avais beaucoup aimé Les Ailes du Désir et tout ce que fait Wim Wenders. Et quand j'ai vu Pina, j'ai fait waouh. C'est pas un bail, là. Enfin, genre, c'était le début, en fait, de comprendre ce que c'était que l'art contemporain, un peu. Parce que quand t'es jeune ou que tu sais pas trop ce que c'est, tu penses que c'est l'impressionnisme et Malevitch. Et en fait, quand tu vois ça et que tu te dis, je comprends pas ce qu'ils font, mais je ressens des trucs de fou, tu te dis qu'il y a un horizon qui s'ouvre à toi et que tu l'as pas vu, mais tu as envie d'y aller, quoi.
Et... Pina Bausch, c'est vraiment, si vous connaissez pas, vraiment regarder quelques extraits sur YouTube de ces spectacles qui ont été mis en scène par elle. C'est vraiment incroyable. Pour le coup, c'est de la danse contemporaine. Et généralement, quand on pense danse contemporaine, on pense Arte, des trucs un peu what the fuck et tout. Mais en fait, là, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est sensible, en fait. Ça vient directement te frapper, toi. Et puis même, en fait, ce qui est beau dans son travail, c'est que t'as pas besoin d'avoir une histoire de la danse ou de connaître ce qu'est la danse. Je trouve que ça te parle, ça te touche directement. En fait, je trouve ça fort. Et notamment aussi par la mise en scène, en fait, de ces danses. Moi, la première fois que j'ai rencontré Pina Bausch, c'était au lycée. C'est un prof de musique qui nous avait montré Le Sacre du Printemps. Et alors, Le Sacre du Printemps, les réactions de lycéens... Oh mon Dieu, une poitrine ! Mais au secours ! Et en fait, moi, Enfin, à la fin, tu vois même plus la poitrine, tu vois juste la souffrance, tu vois la terre sur son corps, tu vois tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est le retour à une corporalité, c'est physique.
C'est tellement physique.
Les danseurs, ils sont en sueur, quoi. Enfin, c'est incroyable.
Bah, du coup, moi, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu le film de Wim Wenders. Et ouais, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un très bon moyen de démarrer la danse contemporaine de l'introduction. Parce que c'est pareil, c'est... Au vu des années, quand elle a commencé, c'est l'une des pionnières. Donc, tu sais d'où ça part. Et c'est, enfin, du coup, avec Wim Wenders, il te montre un peu toutes les pièces, toutes les mises en scène les plus connues qu'elle a faites avec, du coup, sa troupe. Parce que, du coup, le film a été tourné après sa mort et devait être tourné à la base avant qu'elle meure. C'est, enfin, moi, j'avais été bluffé, j'ai beaucoup aimé. Merci, en tout cas, pour la découverte. Non, mais c'est vrai, mais parce que, du coup, j'étais c'est un domaine que je connais pas du tout. Enfin, je suis pas du tout sensible à ça. Et comme tu dis, tu vois souvent des petits extraits de reportages et tout. Et en fait, quand tu t'attardes, tu comprends, comme tu dis, la physicalité et la mise en scène. Qui est
c'est ça, en fait. Dans le film, tu as vraiment l'impression de rentrer dans l'univers à la fois de Pina, ce qu'elle met en œuvre avec sa vie, mais à la fois aussi des danseurs. Et ouais, ce truc de, tu vois les poitrines, bah, c'est, tu vois la physicalité du truc, moi c'est ça qui m'avait fasciné, et c'est ça que du coup ça m'avait trop plu de retranscrire en peinture quand j'ai fait cette peinture. C'était, c'est assez significatif, caractéristique de Pina, j'ai l'impression de ces robes hyper fines, à peine posées, complètement volatiles sur ce corps quasiment nu, du coup il est peut-être presque plus dénudé parce qu'il y a cette robe là que s'il était juste à poil. Et par-dessus, il y a cette poussière qui se colle à la sueur. Et c'est t'as tellement un rapport, du coup, avec cette... Moi, ce que j'avais adoré faire en peinture, c'était cette peau hyper fine qui se pose sur tout cet intérieur où tu sens que l'émotion, c'est la tempête. Et t'as les os qui sont en saillie. T'as tous les plis de la peau. C'est tout un truc, du coup, que j'ai adoré voir et adoré essayer de retranscrire... En peinture après, quoi.
Mm-mm. Et retranscrire en peinture, mais est-ce que toi, tu as voulu faire de la danse contemporaine ou est-ce que tu en as déjà fait?
Ouais, carrément. Bah, après ce film, je me suis dit, allez, ouais,
j'ai envie de faire pareil. Autre trigger à ce film.
gros déclencheur de ma vie. J'ai fait pas mal de danse contemporaine après. C'est aussi par la danse contemporaine que je me suis dit que j'avais envie de faire la performance ou au moins d'essayer.
Et alors la performance.
Ouais. c'était aussi pas mal. En fait, c'était en groupe. On était aussi une bande de potes féministes, assez lidées par des idées plutôt radicales. Et entre nous, on se montait un peu la tête et on était motivés, quoi. Et on faisait des choses qui maintenant, je pense que je referai pas. Parce que c'était confronter, je pense, le public à des visions de choses qu'il n'a pas envie de voir. Et peut-être qu'il faut... C'était radical. On se mettait à poil devant les gens. Il y avait... c'était pas nous qui se déshabillons nous-mêmes. On était déshabillés par les autres.
Oh, wow.
Donc, okay. C'était assez violent.
Ouais. Ça fait penser à Abramovic dans ses performances.
Ouais,
sais,
carrément.
Les gens interviennent et ils lui collent des trucs sur le front et tout. Genre...
Oui, on était... on avait le sang chaud des jeunes étudiants.
Ouais.
qui regardaient Abramovic comme si c'était du lait dans le biberon. Et on a fait des choses... de ce style en plein milieu du réfectoire de la fac ou des trucs comme ça.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter la performance? Est-ce que c'est vraiment, comme tu nous disais, en fait, la peinture de Pina ou voilà, comme tu nous l'expliquais, t'as ressenti un truc plus fort pour peindre et t'as stoppé net la performance?
Ouais. Et je pense qu'il y a eu vraiment ça. Je me suis dit qu'en fait, c'était... Je suis trop contente d'avoir fait ça et c'était trop cool, la performance. Et c'était... Je dis que je referai pas ça, mais je suis pas déçue de l'avoir fait. Je remets pas en compte le truc et je suis contente d'être un petit peu explorée tout ce côté militantisme aussi, féministe. Mais c'est pas ce qui me faisait vraiment vibrer à l'intérieur, ce qui me permettait vraiment d'exprimer qui j'étais, je sais pas. Enfin, c'était une partie, mais c'était pas si profond que ce que faisait ressentir la peinture. Et il y a eu aussi le fait que je pense que y avait ce groupe-là qui s'était formé, et puis on arrivait à la fin de la licence, il y avait pas mal de gens qui partaient à droite à gauche, donc on n'avait plus la même motivation.
Et donc là, tu parles assez aisément en fait, de ta période de la performance. Quels sont les mots que tu pourrais employer pour définir tes peintures ou ton travail?
Les mots, genre, tu veux que je te donne une liste de mots?
Je sais pas, parce que là, tu vois, tu disais, par exemple, les performances, elles sont assez violentes, on était engagés. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, de ta peinture?
Ça va être beaucoup plus dur.
Oui, parce que t'es encore dedans, en fait.
C'est ton taf.
Ouais, et puis il y a le côté, quand t'es en groupe, t'as beaucoup plus confiance en toi. T'as beaucoup plus de recul sur ce que tu fais, parce que c'est pas juste toi qui l'as fait. Que quand c'était trop
tu prends pas la... Quand tu comprends la critique, elle est partagée par tous les membres. Alors que quand t'as une critique en peinture, elle est... que vers toi, puisque
oui.
C'est ça aussi qui
bonjour.
Est... Non, mais oui, mais oui. Je comprends le...
La oui, bien. Puis en performance, c'était pas moi qui l'idée, le truc, c'était pas moi la force de proposition d'idée.
Oui.
Que là, en peinture, vu qu'il y a que moi.
Il y a toi, et puis
il y a
toi.
Il y a toi, il y a moi. Mais, je sais pas, pour en parler, bah, il y a ce... En fait, si, je suis vraiment... contente d'avoir fait de la performance avant parce qu'il y a un lien quand même avec la présence physique.
Surtout que c'est toi qui prends en photo tes modèles en plus. Donc il y a tout ce côté de mise en scène. Ouais. Il y a vraiment... T'as un rapport direct au nu déjà avant, quand tu prends les photos et que tu travailles avec les modèles.
Ouais.
Et ensuite, pareil, confrontation au nu, mais via la peinture.
C'est ça. Je pense que ce qui traverse tout ça, ce qui m'intéresse vraiment et ce qui m'intéressait déjà dans la performance, c'est la présence du corps. Que... Juste ça, ça suffit en fait. Juste être présent, c'est déjà beaucoup et ça veut dire beaucoup de choses que tu peux pas forcément dire avec des mots. Et c'est ça que j'aime bien essayer d'aller trouver quand je peins tel ou tel pote, c'est comment est-ce qu'il est juste là avec son corps. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper fort et hyper puissant dans la peinture de l'histoire de l'art, par exemple, entre la Renaissance et le XVIIe. Où t'as des tableaux pareils, quoi, de grandeur nature, avec une puissance. Enfin, de les voir en face à chaque fois, c'est genre une claque. Et du coup, c'est ça aussi qui m'inspire. Et c'est ce lien, en fait, que je fais, du coup, entre Pina, la peinture contemporaine et la peinture de l'histoire de l'art, c'est ce que j'essaye d'aller chercher. Ce que j'essaye d'aller trouver, c'est le corps et sa peau aussi, sa façon dont parce que souvent, c'est des corps nus aussi dans l'histoire de l'art. Donc, c'est comment la lumière, elle joue sur la chair. Comment à travers ça, il y a quelqu'un derrière. Par ça, il y a quelqu'un qui est là. Tout ce genre de, trucs.
Du coup, tout s'éclaire, en fait. Parce que parmi les artistes... Enfin, les trois œuvres, on t'a demandé... Est-ce qu'il y a trois œuvres qui t'ont marqué? Parce que voilà, c'est pour ça. Et donc, tu nous as parlé de Pina. Et après, juste en dessous, tu nous as donné le nom de Artemisia Gentileschi. Et moi, je me suis dit... Oh waouh, l'écart dans le temps entre ces deux artistes, je m'y attendais pas. Mais après, j'étais absolument pas surprise que tu nous parles d'Artemisia Gentileschi parce que je connaissais un peu ton rapport à l'histoire de l'art et que c'était quelque chose qui te touche. Après, quand on connaît ton travail et on sait que tu fais des peintures immenses et que c'est des nus et qu'il y a tout ce travail justement de la pose, enfin tes peintures, elles sont quand même très composées. Je me suis dit, ok, Artemisia Gentileschi, ça fait sens. Mais je savais pas que ce qui t'intéressait, c'était aussi ce rapport à la lumière, là, tout ce dont tu viens de nous parler. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment choisir Artemisia Gentileschi? Est-ce que c'est la figure de la femme peintre ou du peintre qui, à cette époque-là, du coup, s'est imposée, qui a été oubliée par l'histoire de l'art et que l'on redécouvre récemment? Ou est-ce que c'est vraiment ce pourquoi, en fait, elle est connue et excellente, c'est son talent?
Bah, c'est tellement... En fait, tu tapes dans tout ce qui est complexe avec quand on parle de cet artiste, en fait. Parce que moi, mon humble avis, je considère qu'elle est au-dessus du Caravage dans ce que certains de ses tableaux.
Tu veux bien nous recontextualiser un peu cet artiste, son époque, par exemple.
Ouais, bah du coup, c'est le XVIIe siècle en Italie. Du coup, le XVIIe siècle.
Non, moi, c'est bien déjà, on est au XVIIe siècle, bien, ouais.
On va s'arrêter là.
Bah, donc, en fait, il y a déjà eu pas mal de grands peintres, pas mal de choses.
Voilà.
Bah, en fait, je pense que j'ai voulu parler d'elle parce que c'est hyper complexe, hyper intéressant, et je suis une fan inconditionnelle et qu'aussi, elle m'inspire de ouf pour faire des tableaux. Mais surtout parce que j'ai réussi à mettre la main sur un livre d'histoire de l'art qui est dédié à cette personne. Et que je le lis, et que c'est super intéressant tout ce que j'apprends dedans. Et super complexe, parce qu'en fait, on dit qu'à cette époque-là, les femmes, elles n'étaient pas artistes parce que le social, tout ça. C'est vrai, j'imagine, et en même temps, dans le livre d'histoire de l'art que je lis, ça repose un peu le contexte que c'est pas seulement à l'époque qu'il y avait ce sexisme, en fait. Mais c'est aussi aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, dans le fait qu'on les a oubliées. En fait, des Artemisia, il y en avait peut-être au taquet, mais on ne les a pas retenus. Parce que le sexisme a fait œuvre de toutes les années, en fait, et du coup, les tableaux, on les perd, on les classe pas, on les retient pas. Et surtout, après, au XXIe siècle, il y a zéro personne pour faire des recherches dessus, des zéro personnes qui sont intéressées. Et ça, ça reste un problème qui est systémique.
C'est hyper intéressant, ça. Parce que du coup, ouais, on a tendance à rejeter la faute sur le passé, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est tout aussi coupable à ne rien faire, c'est ça ?
Tout à fait. Et en fait, dans le livre, elle fait plusieurs approches historiques, et elle fait notamment une approche féminisme de l'époque. Et en fait, bah, c'est pas si pire qu'on l'imagine. T'as des figures mythologiques, badass. et t'as, bah voilà, si on veut parler de ça dans ce podcast, mais je sais pas, un rapport à la sexualité où je sais pas, une femme doit avoir un orgasme pour enfanter, donc c'est important de penser au plaisir féminin. À la Renaissance, des choses comme ça, qui par exemple au 19e siècle, c'est complètement l'inverse.
Oui, un renversement.
Ouais. Ouais. Et dans la société, dans ce genre de choses. Enfin, bien sûr qu'à l'époque, c'était sexiste, mais il y a peut-être des choses aujourd'hui qu'on fait qui sont pires que d'autres choses dans certains contextes à l'époque. Et c'est plus complexe que ça.
Et c'est quoi ce livre ? Tu t'en souviens ?
C'est Marie Carrard. Mais en fait, ça fait longtemps que je cherche une monographie de ses œuvres, parce que je les trouve incroyables, et que je trouve pas. Et il y a 1000 bouquins dans toutes les librairies qui vont te dire les 100 meilleurs artistes féminins, les 100 femmes artistes, ou alors les femmes artistes, et il va y avoir femmes barrées et il va y avoir les artistes. Mais en fait, rien que ça, c'est un problème en soi, parce que d'où les femmes, elles ont un bouquin pour 100, et d'où les mecs, mais genre de personnes que tu n'auras jamais entendu parler et que tu n'en auras jamais rien à foutre, ont des monographies chez ta chaîne, quoi.
Oui, monographie, du coup, c'est un...
Un livre que de
l'artiste avec tout son travail et un peu une réflexion sur son travail aussi, du coup.
Ouais, moi à la base je cherchais vraiment un outil de travail, c'est-à-dire un bouquin bien imprimé avec des belles images de tout ce qu'elle a fait.
Ouais.
Et ça se trouve pas.
Putain, c'est fou.
Alors que c'est une superstar.
Ouais, parce qu'en plus, du coup, moi j'ai une toile devant les yeux parce que nous prenons des notes.
C'est laquelle ?
C'est celle de Judith.
Des Capitaines de la Ferme.
Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'on l'a attribué au Caravage, je crois, au début,
disais, ouais.
Cette toile. Et en fait, quand tu vois du coup la représentation du mythe du coup de Judith, dont on a déjà parlé dans un ancien épisode, c'est que c'est la vision aussi de l'artiste. Comment est Judith, comment est la servante par rapport au classique, on va dire, où dans le Caravage, elle est limite dégoûtée quand elle décapite, alors que là, elle est vraiment, on y va. Après, ça s'explique par son histoire aussi, parce qu'elle a subi un viol, elle a été jugée, enfin...
Jugée, torturée.
Elle a été jugée, torturée, et c'est pas rien ce qu'on lui a fait en torture, on lui a broyé les mains. T'es une femme, tais-toi et tu peins pas.
C'est...
Et est-ce que tu t'inspires aussi de, comme tu le disais, des tableaux d'histoire de l'art pour tes propres compositions?
Ouais, carrément. Bah, du coup, ça, c'était un principe que j'avais un peu à la fac, que j'avais mis en place avec les profs. Je prends un tableau et je fais une citation de ce tableau via une mise en scène que je fais avec du coup, mes potes. Et c'est une source d'inspiration qui se tarit jamais vraiment, en fait, parce que t'as énormément de tableaux, t'as énormément de talents à cette époque. Enfin, aujourd'hui aussi, bien sûr, mais t'as un truc spécial qui se passe à cette époque, quand même. Et en fait, je me dis, waouh, il se passe ça comme ça, et j'aimerais bien faire pareil, je vais essayer. Et bah, par exemple, pour Artemisia... Il y a plusieurs trucs que j'ai voulu reprendre d'elle. Il y a un tableau qui s'appelle Esther devant Assuérus. Donc c'est trois personnages féminins qui sont à gauche dans le tableau et à droite t'as le roi du coup qui est Assuérus. Et en fait Esther c'est quelqu'un qui c'est donc la promise du roi qui se présente devant lui pour lui demander de ne pas tuer les juifs de la ville, parce qu'elle-même est juive, mais en fait, elle s'évanouit tellement elle a la pression, parce que si elle dit n'importe quoi devant le roi, la peine, c'est la mort. Donc elle tombe dans les pommes et elle est soutenue par ses deux servantes, et j'adore la façon dont elle a retranscrit cette composition de trois personnages féminins qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Et c'est... Pour moi, ça exprime tellement la sororité, la tendresse, la sororité, quoi. On se soutient, on est proches, on s'imbrique et on lutte. Parce qu'il y a un petit truc de lutter dans cette histoire mythologique. Tout ça, j'avais demandé à trois potes de refaire cette même pose, ce qui était très compliqué, parce qu'au début, c'est pas du tout instinctif de reprendre une pause qu'on te demande. Et puis, petit à petit, il y a d'autres choses. Enfin, les gens se mettent à l'aise. Il y a d'autres choses qui paraissent évidentes. Et au final, t'arrives à faire une belle composition avec ça. Et j'avais fait ça. Et après, il y avait un tableau qu'elle a fait de Cléopâtre. Du coup, Cléopâtre qui se donne la mort parce qu'elle sait qu'elle est vaincue, et que, vu qu'elle ne veut pas être tuée par ses ennemis, elle se donne la mort elle-même, je crois.
Oui, en gros, elle sait qu'elle va être, elle va être enlevée, elle va être humiliée en place publique à Rome, en gros, et elle préfère mourir plutôt que de...
C'est ça.
Je crois, il y a toute une histoire comme ça. Du coup, c'est une scène assez classique de peinture, du coup, de la mort de Cléopâtre.
Ouais. Mais en fait, en filigrane, dans toutes les peintures d'Artemisia, il y a toujours ce truc de... Bah,
de quelle représentation, ouais.
Qu'elle représente les femmes, les femmes qui luttent et qui disent non, no way, je vais pas faire ça.
Ouais. Il y a un truc différent. Tu peux comparer toutes les œuvres sur le même sujet et tu reconnaîtras, tu veux dire, Artemisia par la façon dont elle aura
traité
les sujets.
Déjà, il y a le female gaze.
Ouais. Non, mais oui, du coup, c'est...
Ouais.
C'est quoi le female gaze, tu peux dire? Très rapidement.
Bah, c'est le... Enfin, quand tu... Enfin, c'est représenter un point... Enfin, un sujet féminin à partir d'un point de vue féminin. Mais au-delà de ça, en fait, c'est au-delà de féminin, masculin, binarité de genre ou construction, essentialisation, c'est plutôt... parler d'un sujet à partir d'un endroit qui te concerne, le point de vue situé. Et en fait, elle parle de meufs qui subissent ou qui sont plus ou moins menacées de violences sexuelles et qui vont lutter contre ça. Donc soit en se donnant la mort après, pour garder leur honneur, soit survivre de ça, soit se venger, soit tuer leur oppresseur, ce genre de choses. Et dans Cléopâtre, il y a ce truc que moi je trouve incroyable, ce tableau de Cléopâtre, parce qu'elle reprend un peu la pose de la Vénus d'Urbain de Titien, qui est genre assez connue, la Renaissance, pour être genre la première pin-up de l'histoire. Je crois que c'est Daniel Arras qui dit ça. Enfin, un truc comme. Enfin, c'est vraiment, t'as une sensualité. Oui. Ça se donne à voir, ça se désire. Donc c'est tout l'arrivée du désir dans la peinture à la Renaissance. Elle prend un peu la même pose. Sauf qu'elle se donne à voir, mais elle est là en mode « je suis nue, mais tu m'auras pas ». Enfin, je sais pas comment dire. Il y a ses jambes qui sont croisées, il y a son poing qui est fermé et qui est rouge de sang. Quoi.
Ah oui, le sang qui...
Ouais, elle lâchera pas son poing. Dans son poing, elle a le serpent qui va la tuer. Elle a la tête en arrière, mais c'est pas du tout lascif. C'est complètement cassé. Elle a le bras au-dessus de la tête, mais pareil, c'est... ça paraît un peu vraiment inconfortable. C'est pas du tout érotique, et pourtant, elle est nue, et pourtant, elle est sur un lit qui est défait. Mais c'est son dernier instant de vie et son dernier instant de lutte avant la mort. Et ça, je trouve ça tellement fort d'arriver à exprimer tout ça à travers... somme toute, est classique, c'est-à-dire un
oui,
féminin.
Oui, c'est ça, c'est que...
Et il y a tout ce truc aussi, en fait, avec Artemisia, que, comme tu disais, je crois, Caro, qu'il y avait... pas le droit aux femmes d'avoir des modèles, parce que c'était indécent.
Des modèles masculins, oui.
Des modèles masculins, et en fait, il n'y avait pas le droit aux hommes d'avoir des modèles féminins, il me semble, à l'époque. Et du coup, elle frime, parce qu'elle a le modèle féminin, c'est elle devant la glace. Et en fait, elle frime en montrant un corps féminin qui est hyper réaliste. Et en fait, le 17e, c'est aussi ça qu'on cherche, c'est le réalisme, en fait, dans la religion, le baroque, tout ça, on va chercher la révélation spirituelle par le réel. Et donc, le Caravage, tout ça, qui vont peindre... des prostituées ou des mendiants en tant que Jésus-Christ ou en tant que la Vierge, il y a cette dynamique-là, et elle, en le faisant ça, elle s'inscrit carrément dans cette ère du temps de chercher le réalisme et de dire quelque chose à travers le réel et du coup la présence du corps, quoi.
Bah, pour la thèse, je pense que c'est bien parti, hein.
On est pas mal.
Je pense que c'est pas mal, tu pourrais leur présenter cet extrait-là.
Mais après, du coup, on conseille à tout le monde déjà de regarder ses œuvres. Et
ouais.
Ouais, c'est en fait, c'est on en connaît. Il nous faut une. Enfin, ta chaîne, que faites-vous, quoi? Il nous faut une monographie en français.
Mais en fait, c'est on ça qui me sidère, quoi. Et moi, Artemisia Gentileschi, j'avoue, je l'ai découverte en fait il y a genre 3 ans quand je passais le concours. Généralement, on aime bien les histoires sensationnelles des artistes au parcours un peu extraordinaire, incroyable. Et même là, quand on a une femme artiste avec un destin aussi exceptionnel, avec tout ce qui s'est passé, Enfin, on n'en fait même pas un film, tu vois ce que je veux dire? On pourrait faire des choses comme ça et on...
On en a fait un film,
ah ouais,
mais en fait, c'est terrible. Parce que dans le film, mais c'est un truc de malade. J'ai pas réussi à y croire quand j'ai vu ce film-là, parce que du coup, période où j'essayais de trouver le maximum de trucs sur ça, dans le film, elle est consentante.
Lors de son agression, de son viol, elle est consentante.
Le consent est assis, du coup.
Oui, elle le veut, elle le désire. Et en fait, du coup, après, il est en prison parce qu'il y a le procès et tout. Et il est dans la merde à cause d'elle.
En fait, ils ont...
réécrit l'histoire.
Ouais, réécrit l'histoire, romantisé.
Mais les gars,
vite fait, le
truc. Les gars, ça suffit. Ouais,
ça suffit.
Stop le bullshit, genre comment vous pouvez dormir en ayant fait ça, quoi, genre comment vous pouvez avoir un esprit aussi fucked up pour vous dire c'est une bonne idée de scénario, quoi, genre
Et ouais. Du coup, en plus, son histoire, donc tu disais au procès, elle a été torturée, on a broyé ses mains, on l'a forcée à s'exhiber physiquement pour que elle prouve qu'il y a eu un viol, donc sa parole ne suffit pas, on l'a torturée pour que dire en fait, même sous la souffrance, à un certain moment donné la vérité va sortir,
ouais.
Même sous la torture elle a pas changé son discours parce que c'est ce qui s'est passé. Et en fait, Tassi, lui, il a eu des problèmes, même pas à cause du viol de Artemisia qui finalement a été reconnu, mais parce qu'en fait, il a rompu la promesse de mariage qu'il avait faite à son père après le viol pour Artemisia.
C'est ça, ouais.
Oui, et au final, c'est assez triste et c'est tristement banal parce que ça renvoie à des sujets d'actualité, mais là, en l'occurrence, ce rare cas a été entendu en faveur d'Artemisia. Mais lui, tout ce qu'il a eu, c'est un truc comme 2 ans de prison, quoi. Écourté ou un truc comme ça, parce qu'il a réussi à sortir avant. Enfin, je sais.
Et mais ce qui est fou, c'est que c'est triste. Et en fait, la phrase que tu as dit tout à l'heure, mais elle résonne tellement en disant on regarde le passé avec un œil sévère, mais en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est presque pire. Genre là, comme on le sait, il y a 6-7 ans, il y a eu l'affaire MeToo. Il y a eu un gros backlash. On reparle de l'actualité avec Juliette Godrèche, et ça y est, il y a des noms qui sortent, etc. Mais en fait, ça dérange pas plus que ça. Enfin, on se rend compte qu'il y a des hommes qui ont violé des dizaines de femmes, les ont agressées sexuellement, et qui ne vont encore aujourd'hui strictement rien avoir. Enfin, il y a toujours aujourd'hui une sorte d'impunité, alors qu'on se pense contemporain, c'est bon, on peut critiquer le passé, etc. Mais on n'ose même pas, en fait, se confronter.
Ça reste systémique, ça reste en dessous des lignes, entre les lignes dans le dispositif du truc, où tu le vois pas, mais c'est partout. Et du coup, tu as un mal de chien à le faire voir aux gens qui vivent bien avec, parce qu'ils payent pas les conséquences du truc. Mais c'est toujours là, ouais.
Et toi, c'est des histoires aussi qui te touchent ou pas, les sujets de Artemisia?
Oui, de ouf. Moi, du coup, avec la fac et ce groupe de potes que je me suis fait, j'ai découvert le féminisme. Merci. Et c'est devenu une grosse partie de ma vie, ouais. Même si c'est pas trop ce que je fais dans ma pratique artistique de partir d'un point de vue politique, au final, ça se retrouve à la fin, je sais pas, j'en sais rien.
Oui, c'est pas forcément ce que tu veux faire ressortir au départ.
Ouais.
Ça doit se nourrir.
Ça
nourrit, on va dire, peut-être ta pratique ou une façon de ce que tu vas représenter, mais c'est pas ton but premier de...
C'est pas ce qui m'inspire en premier. Et puis c'est pas, je sais pas, la prétention de dire je vais changer le monde avec mes tableaux, quoi.
On a eu cette conversation avec Camille.
Avec Camille. Ouais.
Mais et puis c'est... Oui, j'avais entendu ce qu'elle avait dit, Camille. C'est vrai que c'est pas forcément la façon la plus radicale de se dire « Allez-y ».
Mais alors, du coup, Pinard, moi, je vois le lien avec tes œuvres. Artemisia, du coup, on comprend. Mais alors, la dernière artiste, tu as choisi Catherine Bertola, c'est ça son nom. Pourquoi tu as choisi cette artiste britannique?
En fait, parce que ce que vous m'aviez dit, c'était des artistes qui te parlent, de près ou de loin.
Mmh.
Et en fait, c'est une artiste j'ai fait « Waouh, c'est trop fou, c'est trop intéressant, c'est trop cool !»
Qu'est-ce qui est fou ?
Qu'est-ce qui est fou ? En fait, ce que j'aime beaucoup et ce dont je voulais parler aussi avec elle, c'est le côté vachement plus contemporain et au-delà de la technique. Parce que moi, j'ai une grosse approche technique dans ce que je fais et dans les œuvres que j'aime bien. mais j'adore tout autant l'art contemporain et l'art conceptuel, et je trouve qu'il y a énormément de choses à aller chercher aussi de ce côté-là. Et Emmanuel Mason, du coup, qui me l'a fait découvrir en me donnant un bouquin sur ce qui s'appelle l'hyper-drawing, donc c'est genre un concept, je pense, d'une espèce de colloque ou de centre de recherche en Angleterre, qui parle du dessin contemporain et de comment dessiner au-delà du dessin, genre hyper-drawing, hyper-dessin. Et en fait, il y avait elle, donc visuellement déjà, j'ai trouvé ça hyper beau, donc après, je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait. Et
c'est quoi ce qu'elle fait ?
Ce qu'elle fait, elle, en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, c'était l'image qu'il y avait dans ce catalogue d'exposition, je crois, où tu voyais une pièce en chantier, avec de la poussière de gravats partout. Et en fait, quand tu regardais bien, au sol, t'avais souvent, tu sais, dans la poussière de chantier, au sol, t'as des empreintes de pas. Et t'avais ces empreintes de pas, mais si tu regardais bien, il y avait en fait des motifs qui étaient dans cette poussière. Et en fait, ça fait le petit twist en mode « Oh, attends, waouh !» Et en fait, c'est ce côté hyper fragile de faire une œuvre avec de la poussière.
Je fais des dessins avec de la poussière.
Voilà. En fait, là, je pense que son concept, c'était de... Enfin, son processus, c'est de faire des pochoirs, de mettre de la colle au sol à travers le pochoir et ensuite de saupoudrer de la poussière dessus.
Ah, ok.
Et la poussière, du coup, reste sur la colle et je pense qu'elle doit passer un ventilateur ou un truc comme ça. Mais il y a ce truc, du coup, où elle... Après, il y a peut-être un lien avec la peinture des corps.
Moi, c'était ça, je pensais le lien.
Ouais.
Il y avait ce côté appropriation d'un lieu,
ouais.
De réutiliser
complètement.
Les outils du lieu pour en faire une œuvre. Il y avait un truc, quelque chose comme ça. Moi, c'était ça.
Ouais. Bah, c'est à fond aussi dans le motif. Qu'est-ce que veut dire le motif ? C'est vraiment ce lien tellement poussé loin qui devient autre chose entre art contemporain et peinture décor, parce que ça devient vraiment de la peinture, enfin de l'art contemporain, de l'art conceptuel, mais c'est hyper en lien avec tout ce qui est l'univers de la peinture décor. Parce que, par exemple, elle a fait une œuvre dans une, je sais plus exactement où c'est, mais en gros c'est dans un château, je crois, où t'as une grande salle, un grand réfectoire qui a été vidé, et au sol elle a fait un énorme motif que avec du sel.
Ah, d'accord.
Donc en fait, c'est... Oui, c'est ce que tu regardes là.
Ouais,
en fait, c'est hyper fragile. C'est-à-dire que si tu marches un peu trop vite, tu vas faire tomber le sel. Donc c'est très fragile, éphémère, tout ce que tu veux. Et en même temps, ce qu'elle a fait, donc, c'est un motif, je crois, de dentelle. Bonjour,
oui,
Joséphine.
Fait mais c'est vrai que ça fait peur.
Ouais. Et en fait, ça parle du fait que dans cette salle, donc, on y mangeait. Donc il y avait une grande nappe avec de la dentelle. Et le sel, c'était, je crois, un moyen économique ou social. Par exemple, je crois... Enfin, je vais peut-être dire des conneries, mais économique avec le sel, c'est-à-dire que ça coûtait très cher. Et donc, plus on servait des plats salés, plus tu avais une prestance.
En fait, le sel était utilisé pour la conservation.
Aussi.
C'est, le sel, on payait une taxe dessus.
Ouais.
Enfin, par exemple... En Bretagne, ils ne payaient pas de taxes pour le sel.
Ah.
Le savais-tu ?
Je savais pas.
Et en fait, pourquoi ils ont gardé le beurre salé en Bretagne ? Parce qu'en fait, ils payaient pas de taxes sur le sel et du coup, ils ont gardé cette histoire de conservation du sel dans le beurre et du coup, ils sont. Et y a, voilà, le sel, c'est oui, la taxe sur le sel était très chère et c'est pour ça aussi, c'est un. Comme tu dis, plus tu mangeais salé, je pense, plus t'étais riche, plus t'étais.
Ouais.
Donc il y a tout, ouais, le sel, il y a toute une histoire de conservation, de choses comme ça.
Vive la Bretagne et le beurre salé.
Ouais.
Mais oui, du coup, en fait, ce qui me fascine, c'est que elle parle de tout ça. C'est tellement complexe et en même temps tellement fragile et beau, aussi esthétique et sensible. Elle fait aussi, je crois, des choses avec la fumée ou en brûlant des choses ou alors le papier peint aussi. Enfin, il y a toute une notion d'intérieur aussi, de comment tu te sens dans l'intérieur, des photos d'intérieur, d'époque, qu'elle vient redessiner ou coudre ou brûler.
Du coup, ça m'étonne pas que ce soit Emmanuel Mason qui t'ait présenté cet artiste.
Pourquoi donc ?
Parce que du coup, en voyant le travail aussi d'Emmanuel Mason dans ce qu'elle fait à travers ces plaques. Enfin, moi j'ai vu plusieurs choses. Je pensais au départ à ces plaques de cuivre qu'elle laissait vivre, qu'elle venait retravailler, qu'elle venait oxyder. Pareil qu'elle.
De ouf.
Je pense que ça lui parlait aussi. Enfin, elle avait envie.
De dingue, en fait, Emmanuelle Mason, elle a ce rapport vachement contemporain au dessin. Ouais. Et d'aller au-delà du dessin, de penser le dessin pour son rapport à l'air, son rapport à la respiration, donc ça, l'oxydation, tout ça. Ou le dessin par rapport à... Enfin, il y a cette profondeur dans son travail qui va partir du dessin et puis parler de beaucoup de choses, parce qu'elle a un côté très philo, un côté très... performance aussi, rapport au temps, rapport au corps.
Oui, parce qu'elle s'engage, elle m'a expliqué des fois quand elle travaillait, qu'elle s'engage vraiment physiquement. Il y a un vrai truc quand elle te parle, qui est très intéressant dans ce qu'elle fait. Et,
bah, elle nous
et dans les brûlures à la loupe.
Réchauffement climatique.
Oui, voilà, sur réchauffement climatique.
Où chaque jour, l'été, durant la canicule, elle se mettait dehors avec une loupe et elle brûlait le papier. Et elle faisait le dessin et elle arrêtait quand en fait son corps il était à bout et qu'elle en pouvait plus.
Oui, elle cherche un peu les limites aussi. Elle m'expliquait. Enfin, une fois, ça faisait longtemps qu'on devait se voir et elle était là. Non, mais en fait, je suis malade, donc on se verra après. Puis ça faisait longtemps qu'elle disait non, mais je suis malade. Et puis un jour, elle m'appelle et elle me dit. En fait, j'étais pas malade, j'étais juste intoxiquée par les effluves de mon atelier où je travaillais des métaux toxiques. Jamais, mais t'es trop punk pour ce monde. Ça suffit. C'est moi qui ai genre 25 ans. Toi, t'es censée être genre. T'es censée prendre soin de toi.
Non, mais du coup, c'est en voyant ce travail-là de.
Catherine
Berthelin, recherche le nom, et d'Emmanuelle Mason, ça m'étonne pas du coup qu'elle peut présenter.
Bah ouais, il y a un côté qui m'inspire pas mal, à la fois dans ce que fait Emmanuelle Mason et à la fois dans ce qu'elle fait, c'est de chercher au-delà de juste la prouesse technique, un truc un peu plus profond, un peu plus philosophique, un peu plus sensible, qui parle d'autre chose.
Est-ce que c'est là que tu commences à te définir en tant qu'artiste un peu? C'est quand tu passes au-delà de la technique et que...
Ouais, enfin, ça c'est une question complexe. Je pense que
c'est une question qu'on pourrait poser à chaque personne et que tout le monde aurait une réponse différente.
Bah, je sais pas trop si c'est à moi de... ou si je sais pas
quand est-ce qu'on... Non mais toi, ta vision peut-être aussi un peu...
Bah, c'est sûr que si je fais un truc et que c'est stylé, que j'ai bien fait les proportions, que... Pas tout le monde sait faire ça avec la peinture à l'huile, c'est waouh. Mais qu'il n'y a que ça, bah, je vais être en mode... Je suis pas arrivée à ce que je voulais, quoi.
T'es pas totalement satisfaite.
Ouais, je suis déçue, parce que en fait, la technique, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir quand on se met à travailler régulièrement. Mais par contre, quelque chose que pas tout le monde arrive à avoir, c'est la sensibilité. C'est arriver à parler de choses avec sincérité et avec... avec un truc qui fait qu'il y a un petit côté transcendant, où il y a... Enfin, en tout cas, c'est ça que j'admire chez Epina, chez Artemisia, chez Catherine Berthola et chez beaucoup, beaucoup d'autres artistes.
Mais c'est d'autant plus difficile qu'en plus, toi, tu travailles avec la figure humaine, quoi. Donc, t'es dans un sens, si tu veux travailler le portrait, dans un sens, tu peux pas échapper à au moins le semblant peut-être de réalisme où peut-être on peut identifier la figure. Et malgré ça, il te faut quand même trouver un biais pour ne pas rester que dans ça.
Donc, c'est à la fois difficile et facile, parce que quand tu fais le portrait de quelqu'un que tu connais et avec qui tu as une relation, il y a forcément des choses qui passent, parce que c'est pas neutre. Et en même temps, c'est peut-être un peu facile de savoir faire ça et donc de faire ça parce que tu sais faire ça. Donc c'est les deux à la fois, quoi.
Et à quel moment t'as fait la transition de « je peins des images de Pina » à « je peins des personnes avec qui j'ai un lien » ?
Bah, en fait, j'ai fait une seule peinture de Pina et après je me suis directement passée à faire des personnes que je connaissais, parce que bah, il faut que tu prennes tes propres photos, je pense, il faut que tu prennes tes propres sujets, sinon tu restes dans un espèce de copie de quelque chose qui a déjà été fait, donc ça va pas très loin. Et à cette période-là, j'avais ces personnes extraordinaires à côté de moi qui faisaient déjà ça, de poser à poil pour elles. Donc c'était bête de pas
en profiter.
De pas en profiter. Après, c'est resté et puis c'est devenu un peu plus libre et flou parce que les personnes ont tourné, j'ai rencontré d'autres personnes et c'est un peu à chaque fois au hasard aussi des mmh. rencontres et des moments. Mmh. Mais c'est toujours resté ça et c'est toujours quelque chose que je tiens de peindre des gens que je connais. Et qui, avec, par ce biais-là, il y a des choses qui se passent. Quoi. Mmh. C'est un processus.
Et alors, on a parlé d'artistes qui sont très très sérieux, qui t'ont beaucoup touché, etc. peut-être l'avez-vous entendu, mais il y a un court extrait qui s'est peut-être introduit dans notre générique. Peut-être. Anna, pourquoi Keanu Reeves?
To tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
Parce que je sais pas si on peut trouver plus beau gosse, non?
C'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec cet argument.
Même moi, je cède.
Très très belle personne qui, à chaque fois, a un mot philosophique et gentil, a une bienveillance et ça respire de lui.
Yeah, so, you know.
I'm not a fighter, I'm a lover.
I don't know, no, because if you're a lover, you gotta be a fighter.
How so?
Because if you don't fight for your love, what kind of love do you have? No, I'm kidding.
Et en plus, ce qui est fou, c'est que t'as vraiment des théories poussées sur les films de Keanu Reeves.
Ouais, en fait, je trouve qu'il choisit ses films de façon extrêmement sage et avec intelligence. Et, ouais. Et
il y a
2-3
petits dérapages, ouais. 47 Ronin.
Oh là !
Non, mais 47 Ronin, c'est pas...
Ah, j'ai peut-être pas tout vu. À chaque fois que je vois un film de lui, je peux pas m'empêcher de chercher une profondeur philosophique dans ce qu'il est en train de retranscrire à l'écran.
C'est Speed, ton préféré?
Je pense que mon préféré, ça doit rester Matrix. En fait, moi, j'ai le parcours assez classique de je l'ai regardé petite. Et petite, tu es trop content parce que s'il y a au taquet d'action hyper badass, et puis t'as aussi pas mal de personnages féminins très badass qui est rare à l'époque. Et après, tu le redécouvres quand t'es étudiant en philo et tu dis « Oh my god, je n'avais pas vu tout ça !» Et en fait, il y a tout un concept qui t'explose le cerveau. Et du coup, ouais, pour moi, Matrix, c'est assez magistral parce que ça réunit ces deux trucs en même temps, au même endroit. Et ce qui me donne un peu l'habitude, à chaque fois que je vois un film avec Keanu Reeves dedans, de chercher le transcendantal philosophique et de le relier à ce qui se passe à l'écran. Notamment dans Speed.
Hey, get your ass behind the yellow line.
What is that?
I have no idea.
We won't be able to hold this thing steady for very long. I just need a few minutes. If I can't do it by then, I can't do it at all. Harry, you with me?
Yeah, you be careful, Jack.
What's he doing? Oh my God, he is insane.
La double lecture que j'ai faite, bon, je l'avoue, qui n'appartient qu'à moi, je suis pas sûre que...
Mais elle sera peut-être reprise par tout le monde après.
Je t'ai pensé un truc.
Dans les meilleurs articles.
Ce qui me... En fait, le plot vite fait de Speed, c'est qu'il y a une bombe dans un bus, mise par un grand méchant, que si le bus va au-dessus de 80 mètres à l'heure, il explose, mais s'il va en dessous, il explose aussi. Donc il faut que la personne qui conduit le bus aille de façon constante. Et Keanu Reeves est un jeune agent fougueux de la CIA qui arrive à rentrer dans le bus et à aider le personnage à ne pas faire exploser la bombe. Et il y a tout plein de scènes, de discussions entre Keanu Reeves et le grand méchant au sujet de cette bombe. Et à un moment donné, il y avait une discussion comme ça, et je me suis dit, oh mon Dieu, genre là, je vois un double sens direct. Et le double sens que j'ai vu, en fait, parce que du coup, le méchant, il a genre une cinquantaine d'années, voire plutôt une soixantaine d'années. Le film se passe à Los Angeles dans les années 70, j'imagine, 80, 90 plutôt. Et donc ce gars qui a une soixantaine d'années, il a un discours comme quoi il faut que la bombe explose, c'est la beauté de la bombe, c'est inévitable, et c'est ce que je veux, et c'est ce qui va se passer, et il n'en a rien à foutre de tout le reste. Et Keanu Reeves, il est là, non, elle n'explosera pas, il faut qu'on sauve les gens, et il faut surtout qu'on sauve la conductrice du bus, qui est jouée par Sandra Bullock, avec cette alchimie incroyable entre Keanu Reeves et Sandra Bullock.
Mais ça, c'est la partie gossip.
Et du coup, le double sens que j'ai vu, c'est que en fait, ce méchant incarne, en fait, métaphoriquement, l'homme blanc hétérosexuel de ces années-là qui commence à vieillir déjà et qui ne pense qu'au plaisir masculin dans une relation charnelle avec une femme, c'est-à-dire à avoir un orgasme et faire exploser la bombe et ça s'arrête là et on n'en a rien à foutre du reste. Mais Keanu Reeves incarne le nouvel homme métronormé de l'époque qui va sauver l'humanité de cette génération-là, et qui va faire en sorte que d'accompagner la meuf jusqu'à la fin du trajet et de pas faire exploser la bombe pour que pour que ça se passe bien pour elle aussi.
Bref, you see.
Et en fait, il y a tellement de scènes après ça où c'est fou, parce qu'il y a cette scène où ok, il sort du bus et donc elle est laissée seule à conduire le bus. Et en fait, il fait ce truc de fou où il se met sur une plateforme roulante devant le bus, qui est tiré par une SEIA, et il va sous le bus. Et en fait, il y a ce jeu de regard entre lui qui est allongé et qui va sous le bus, et elle qui conduit le bus et qui le regarde, et elle est là, oh, il va vraiment faire ça. Et lui, il est là, tellement déterminé, il la regarde avec un regard. Et il y a tous les gens du bus et tous les gens de la SEIA qui sont stupéfaits et sans voix et qui revoient la scène et qui se disent mon Dieu, il va faire ça. Et vous l'aurez compris, genre moi je vois le truc de bah il tente le cunnilingus. Et en fait il se retrouve sous le bus et il voit la bombe et il essaye, et là en fait il est perdu, il sait pas ouf quoi faire, et donc il appelle un pote qui est de l'autre côté, à côté d'un ordinateur et plein de bouquins, et qui cherche et qui lui dit dis-moi ce que tu vois.
Okay. Je suis en train de
le fil bleu, le fil rouge, mais je vais pas y arriver. Et elle qui conduit le bus, elle est là, il va pas y arriver, faut le sortir de là.
Moi j'ai trouvé ça génial, et puis voilà, du coup maintenant vous êtes obligés de le voir, c'est...
Je te mets au défi, Alexis, de regarder ce film sans voir ça au premier degré, quoi. Genre.
Et je pense que ça aussi, ça fait une transition parfaite pour notre petite rubrique avec une petite question. Alors.
Je me souviens plus. On a un générique.
Allô?
Allô?
Non, je vous le dis franchement, vous êtes très légèrement endormi. Il y a une grosse déception pour vos fans. Allô?
Est-ce qu'il y a des œuvres que tu regrettes?
Est-ce qu'il y a des œuvres, ouais, que tu as faites que tu regrettes?
Oui et non.
On peut mettre la petite musique d'ascenseur avec Alexis tant que tu réfléchis.
Je pense pas en vrai. Il y a des œuvres qui ont été super dures à faire et qui ont été des mauvaises idées. Mais en soi, ça t'apporte toujours un truc à la fin.
Ouais, tu regrettes jamais vraiment.
Ouais, tu regrettes jamais vraiment. Je me souviens de... Une fois, j'étais dans mon appart, je venais d'emménager, je me sentais pas bien, parce que quand tu viens d'emménager, tu te sens pas bien. Mon voisin a trouvé ce moment propice pour défoncer sa hotte à la perceuse électrique. Donc il y avait un bruit horrible. Et en fait, je m'étais mis cette pression de faire un tableau, parce que c'était l'été, que j'avais rien à faire et qu'il fallait que je fasse un truc. Et je voulais faire un autoportrait, d'une manière spéciale. Et je pense que j'étais complètement coincée dans mon truc. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ça. Et je pense que j'ai pas mal ça. Genre une petite voix en moi qui me dit fais des trucs, fais des trucs, fais des trucs. Et même si c'est des mauvaises idées à la fin, quand j'ai cette injonction un peu à faire des trucs et j'arrive pas à lâcher prise. Et clairement, il fallait que j'arrête, que je lâche prise et que juste je sorte de cet appart où il y avait ce bruit horrible. Et je m'entête. Enfin, là, je me suis carrément entêtée et j'ai fini par déchirer le truc en mille morceaux. Aller frapper chez mon voisin, lui gueuler dessus. Et puis partir jusqu'à AZF, à me promener et genre pleurer, j'imagine. Mais du coup, genre, je sais pas si je regrette parce que bah, maintenant, je referai pas ça. Mais il y a des trucs où, oui, enfin, il y a des trucs où tu as une idée en tête, tu y vas, t'es obstiné. En tout cas, moi, je suis pas mal obstinée souvent. Et en fait, il faut pas, quoi. Faut que ça reste un plaisir.
Pou, t'as détruit cette toile. Mm. Est-ce que ça t'arrive beaucoup de... Ouais, détruire... Enfin, t'as commencé un truc, t'as raté ou...
Bah, sur le coup de la colère, pas trop.
Ouais.
Ça m'est arrivé plus d'une fois.
Ouais.
Mais des fois, c'est pas trop la colère, c'est juste... bon, là... objectivement, j'ai fait de la merde, mm-hmm. On repeint par-dessus.
Ouais.
on garde la matière première, la toile ou quoi, mais objectivement, ça va pas aller très loin, donc autant pas le garder, quoi. Mais sur le coup de la colère, 2-3 fois, mais bon, c'est plus lié à d'autres choses, parce que j'ai pas bien dans ma vie ou quoi. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de choses que je garde, parce qu'en fait, ouais. T'as des trucs où tu vois qu'il y a un petit truc. Il y a un petit truc, il y a une petite idée qui peut, plus tard, avec d'autres moyens, te donner autre chose d'intéressant. Mais après, tu viens un moment où tu ne peux pas tout garder.
Oui, c'est ça. Mais après, c'est ce que je pense que c'était les débuts. Et puis, elle m'a dit... et puis quand tu accumules, tu te rends compte que oui.
Ouais, peux... puis à force de tout garder et de faire des tris réguliers, tu finis par comprendre quand il y a un truc où il faut que tu le gardes, même si c'est pas abouti, il y a quelque chose qui va en sortir. Et non, là, vraiment, là t'as pas géré.
C'est ça, oui, oui.
Et est-ce qu'on passerait pas à notre ultime question du podcast, Alexis?
Et toi, Anna, qui aimerais-tu écouter dans le podcast?
Tellement de gens.
Oh. Attends, je prends mon stylo.
Non, mais oui, franchement, ça fait un petit moment que je sais qu'on va enregistrer.
Oui.
un petit moment que j'écoute tous les autres. Et que je me dis, bon, bah, et moi, qui est-ce que j'aimerais bien? Et du coup, il y a beaucoup de gens depuis le temps. Bah, déjà, Emmanuelle Mason, ce serait cool, parce que c'est ma maman, que les mamans, ça se respecte.
Coucou, Manu.
Je sais pas. Après, j'ai fait une année de prof, du coup, dans cet atelier à la fac. Et dans cette année de prof, j'ai vu des fascinants. J'adore voir les artistes créer leurs œuvres sous mes yeux. Enfin, quand tu, il y a un côté où
de voir le process des gens, des autres.
Le process et l'émergence aussi.
Ouais.
Ils arrivent, ils savent pas trop quoi faire, ils tâtonnent, ils découvrent des trucs et waouh, ils sortent des trucs. Waouh, c'est dingue. Et de côtoyer comme ça des étudiants plus jeunes que moi avec cette pratique toute fraîche, toute pleine de vie, c'était magique et je me suis dit que, enfin, c'était aussi complètement intéressant de les entendre parler eux et elles. Parce qu'ils ont un rapport différent et ils ont un rapport qui vaut le coup d'être entendu autrement aussi.
Donc des gens plus jeunes, du coup.
Plus jeunes, je sais pas, ils étaient peut-être plus vieux que moi. Hein. Mais après, je sais pas, si on reste dans le gang des artistes toulousains, il y a Cécile Lamy.
Hello Cécile.
Il y a Emma Fornero.
Oui, Emma.
Il y a aussi, bah, si on reste dans la vibe des mamans, il y a ma directrice de recherche, Emma Viguier, qui a aussi une pratique artistique qui est très fine et très intéressante, d'autant plus que du coup, elle est prof, elle a un gros bagage philosophique derrière. Si, Ronald Kirchhoff.
Wow.
Ouais. qui fait les affiches de ciné latino et qui est adorable et que je pourrais entendre parler de son travail pendant très longtemps. Parce qu'il en parle avec une sensibilité et une poésie très touchantes. Jean-Luc Favero, qui est un artiste du Tarn, que tu peux croiser au détour d'un buisson dans les forêts du Tarn, qui est un peu un hippie, mais qui a une pratique incroyable. Enfin, il a une pratique à la fois hyper technique sur le dessin des arbres et des chevaux, des animaux, et très contemporaine aussi, très conceptuelle. Peut-être on va s'arrêter là.
Bah, merci beaucoup.
Vous avez
merci beaucoup Anna, mais mille merci parce que vraiment ça a été un périple pour arriver à enregistrer cet épisode.
Si vous saviez.
Si vous saviez, parce que ouais, quand tu l'as dit, t'as eu le temps de réfléchir parce que ça devait longtemps qu'on devait se voir. Et franchement, merci pour ta patience, merci d'être aussi chou, merci pour ce que tu fais.
C'est vous qui êtes chou.
Merci pour les cadeaux. On a eu des cadeaux.
C'est genre un message au prochain.
Pas du tout. Non mais merci, c'est vraiment trop trop chou. Et tout ce que tu nous as raconté, pareil, c'est hyper généreux, c'est hyper sincère. Et vraiment, je pense que c'était un super moment. C'était vraiment trop trop chouette.
Merci.
Bien sûr, on va mettre tous les liens Instagram sur notre Instagram. Merci pour les messages que vous nous envoyez aussi, de plus en plus nombreux sur les retours d'épisodes. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc vraiment, c'est un plaisir. Voilà, franchement, ça nous fait... Ouais, déjà, nous, ça nous fait trop plaisir d'enregistrer des épisodes, de rencontrer des artistes, de parler des œuvres. Et en plus, si on est écouté et en plus, si on nous suit, c'est que du plus.
Et c'est que du bonus.
Ouais, c'est que du bonus et merci, merci beaucoup. Et à très bientôt.
Merci.
Merci bien,
merci,
messieurs.
Anna.
Pour votre précieuse collaboration.
On l'a fait.
De rien. Au revoir. Où allons-nous ?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi ?
Parce que j'ai rendez-vous.
Oh. J'y vais, là.
Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, oui.
Je suis juste à côté.
On sait où vous êtes.
Je peux vous prendre le journal ?
Tout ce que vous voulez, prenez tout.